Bonjour à tous. Merci de me donner de nouveau l'occasion de prêcher la parole de Dieu. C'est à la fois un beau privilège, mais aussi une grande responsabilité. Et quelle a été ma surprise quand j'ai appris que vous étudiez le livre du prophète Amos. Oui, j'ai été agréablement surpris qu'un petit prophète, parce que le livre est court, qu'un petit prophète soit prêché, parce que c'est chose rare dans les églises, je crois. Mais c'est une bonne chose. Dieu a consigné dans sa parole tout ce qu'il nous faut pour notre instruction. Et je poursuis donc l'étude de ce livre avec vous. J'aimerais rappeler brièvement le contexte. Nous sommes dans les années 765-750 avant Jésus-Christ. À cette époque, l'ancien royaume du roi David et du roi Salomon était divisé en deux. Au nord, nous avions Israël et au sud, Juda. À cette époque, Dieu appelle un prophète qui s'appelle Amos. Du moins, il n'est pas prophète de métier, mais c'est un berger. Il est issu du royaume de Juda et Dieu l'appelle à prêcher, à parler de sa part dans le royaume d'Israël. À cette époque, Israël connaissait des succès militaires et une période de grande prospérité matérielle sous le règne du roi Jéroboam II. Et cette période de prospérité avait installé les Israélites dans une fausse sécurité, celle de penser que puisque tout va bien, Dieu est avec nous. Dans son message, Amos dénonce au contraire des injustices sociales, l'insouciance des puissants, la fausse religiosité. Et malgré l'appel à revenir à l'Éternel, le peuple ne se repent pas. Dieu a été suffisamment patient. L'heure est au règlement de compte. L'Éternel annonce par son prophète la fin du royaume du Nord. Et c'est de cela dont il s'agit au chapitre 8. Nous l'avons lu ensemble tout à l'heure. Ce texte ne contient pas du tout de bonnes nouvelles pour Israël. C'est tout le contraire. Une avalanche de paroles qui annoncent des malheurs. Et ce texte va peut-être à l'encontre de l'idée que nous nous faisons de Dieu. Nous savons que Dieu est juste, mais nous avons parfois du mal à concevoir un Dieu qui punit, un Dieu qui détruit, un Dieu qui sème la mort. Nous avons du mal à voir Dieu ainsi, sans doute parce que nous avons du mal à considérer le péché pour ce qu'il est. Qu'est-ce que le péché si ce n'est une offense à Dieu, une atteinte à sa personne? Allons plus loin. Avec Dieu, il existe un point de non-retour. À un moment donné, Dieu ne pardonne plus. Nous avons plutôt tendance à prêcher sur le pardon de Dieu, et il est juste de le faire. Mais qu'en est-il de son non-pardon? À un moment donné, sa patience a atteint sa limite. Sa justice ne supporte plus l'injustice. C'est le temps du jugement, le moment de rendre justice en punissant les coupables. Et Dieu a rendu son verdict pour Israël coupable. Ma question cet après-midi est la suivante. En ce qui te concerne, quel est le verdict de Dieu? Une sentence juste. La sentence que prononce le Seigneur est juste parce que Dieu lui-même est juste. En considérant tout le mal qu'Israël a commis et sans changement de sa part, Dieu déclare Israël coupable et annonce sa condamnation. Lorsque nous parcourons le livre d'Amos, nous ne sommes pas surpris par ce verdict de Dieu. Déjà dans les chapitres précédents, l'Éternel avait annoncé par l'intermédiaire de son prophète l'exil, la destruction de Samarie, la capitale du royaume, et puis également une invasion venant d'ailleurs. Alors pourquoi cette nouvelle vision qui répète ce que nous savons déjà? Eh bien, il faut la situer dans un ensemble de visions qui a déjà commencé au chapitre 7. Amos reçoit d'abord deux visions qui révèlent le jugement de Dieu. Le prophète intercède en faveur d'Israël et Dieu renonce à ses menaces. Amos reçoit ensuite une troisième vision. Cette troisième vision qui annonce la fin des cultes et la fin de la dynastie de Jéroboam. Et Dieu va réellement mettre un terme à tout cela. Et puis maintenant, nous parvenons au chapitre 8, à la quatrième vision, qui annonce cette fois-ci la fin du royaume. Et c'est tout le peuple d'Israël qui est concerné par ce verdict. Et vous voyez que dans cet ensemble de visions, il y a une progression. Verset 1. Voici encore ce que me fit voir le Seigneur l'Éternel. Il y avait une corbeille remplie de fruits mûrs, comme à la fin de l'été. Amos voit une corbeille de fruits. Et généralement, quand on pense à corbeille de fruits, c'est plutôt une image positive qui nous vient en tête. Ça nous donne peut-être envie même de les cueillir ou de les manger. Mais ici, il n'en est rien. L'Éternel ne tarde pas à expliquer le sens de cette vision. Israël est mûr comme ses fruits d'été, mûr pour être jugé, mûr pour être châtié. Le temps est venu pour Israël de payer pour ses fautes. La décision de Dieu est prise. La fin est arrivée pour Israël, mon peuple. Ce n'est pas parce qu'Israël est le peuple de Dieu qu'il échappe pour autant à son jugement. L'expression « je ne lui laisserai plus rien passer » et qui figurait déjà au chapitre 7, est bien la parole d'un Dieu en colère. Un Dieu en colère contre son peuple. Et un peu plus loin, dans notre texte, le Seigneur ajoutera dans le même sens cette idée. L'Éternel l'a juré, aussi vrai que Jacob est orgueilleux, jamais je n'oublierai aucune de leurs œuvres. Israël est allé trop loin dans sa corruption, trop loin dans sa désobéissance. Et quand Dieu dit, et ici Dieu jure, de ne jamais oublier les péchés des Israélites, cela signifie qu'il tient compte de chacun de leurs actes dans son jugement. Cela signifie que Dieu ne pardonnera pas Israël cette fois-ci. Verset 3, en ce jour-là, les chants dans le palais deviendront des lamentations. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, car les cadavres seront nombreux dans tous les lieux. On les jettera en silence. Nous avons ici une première description de ce à quoi ressemblera ce jour où Dieu réglera ses comptes avec son peuple. Le salaire du péché, c'est la mort. Et des cadavres ici, nous en voyons partout. Et tantôt la mort pousse les gens aux cris et aux lamentations, et tantôt elle suscite le silence. Après tout, qu'est-ce que l'être humain peut ajouter pour sa défense face au verdict de Dieu ? Et en effet, Dieu ne châtie pas sans raison. Les versets suivants, les versets 4 à 6, ainsi que le verset 14, eh bien, nous permettent de saisir à nouveau les raisons d'un tel châtiment. Et je dis à nouveau parce qu'en réalité, Amos avait dénoncé tous ses péchés. C'est ce que nous lisons dans les chapitres précédents. Et nous voyons toute la patience de Dieu à l'égard de son peuple. Mais ici, il s'agit du dernier verdict. Et il est tout de même intéressant de voir sur quoi le Seigneur insiste, même si Amos a déjà dénoncé tous ses péchés. Les versets 4 à 6 dénoncent les injustices sociales, tandis que le verset 14 va dénoncer l'idolâtrie. Et j'aimerais plus me concentrer sur les versets 4 à 6. Le verbe « écouter » est adressé à une catégorie du peuple, les marchands, ceux qui font des affaires, ceux qui cherchent à s'enrichir et qui trompent pour s'enrichir, ceux qui exploitent les pauvres, que doivent-ils écouter précisément ? Eh bien, ils doivent écouter la sentence du juste juge. Et observez avec moi les versets 4 à 6. Ces personnes accumulent les péchés. Et j'ai indiqué dans ce tableau les lois qu'Israël était en train de transgresser. Vous avez dans la colonne de droite ou de gauche, selon là où vous êtes placé, les lois contre lesquelles Israël ne cesse d'agir. D'une part, ils n'ont aucune considération pour Dieu. Certes, la nouvelle lune, le sabbat sont respectés, dans le sens où les Israélites ne travaillaient pas à ce moment-là. Et ça, c'est vrai, la loi l'exigeait. Mais en même temps, et c'est ce que ce texte nous montre, leurs pensées n'étaient pas du tout, ne concernaient pas du tout le sabbat pour ce qu'il était. Mais au contraire, ils pensaient au travail. Pour ces gens, comme le temps c'est de l'argent, eh bien, prendre son sabbat c'était une perte de temps, et c'était donc une perte d'argent. Pourquoi ne travailler que 6 jours s'il y a 7 jours dans la semaine ? Ces gens veulent faire des affaires. Ils attendent avec impatience la fin du sabbat. Ils ne voient pas ces jours de repos comme des temps pour adorer Dieu. Et puis d'autre part, ils n'ont aucune considération pour leur prochain, et en particulier pour les pauvres. Ils changent les mesures et trompent sur la marchandise. Ils s'en prennent aux pauvres jusqu'à les réduire en esclavage. Et le texte nous dit « pour une paire de sandales », verset 6. Le Seigneur déclare suite à tout cela qu'il n'oubliera aucune de leurs œuvres. Aucune injustice dans ce monde n'échappe à Dieu. Aucune n'est et ne restera impunie. Et face au péché d'Israël, le Seigneur pose la question suivante. Le verset 8 peut se traduire littéralement ainsi. Le pays, à cause de cela, c'est-à-dire à cause de tous ses péchés, ne sera-t-il pas ébranlé ? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil ? Ici, il s'agit d'une question rhétorique. Et la réponse que nous pouvons ce que nous pouvons répondre à cette question, c'est finalement oui, absolument. Israël mérite d'être puni pour ce qu'il a fait. Oui, Seigneur, tu as raison de punir ton peuple. Israël est parvenu au point de non-retour. Nous vivons aussi dans un monde où, de bien des manières, le pauvre est exploité au profit des puissants de ce monde. Et parfois indirectement à notre profit aussi. L'écart entre les riches et les pauvres se creuse toujours davantage. Nous vivons dans une société où le dimanche ne constitue plus exclusivement un jour de repos. Les commerces sont ouverts, le travail est autorisé. Je crois que parmi les péchés mentionnés, la malhonnêteté est le péché auquel il est facile de céder. Dieu aime la justice, Dieu aime la vérité. Pourtant, il est parfois si facile de tromper son prochain. Est-ce que lorsque nous déclarons nos impôts, nous déclarons tout ce que nous devons déclarer ? Peut-être que nous sommes tentés de prendre les transports sans payer le titre de transport. Après tout, tout le monde le fait. Et puis pourquoi pas jouer sur son apparence pour profiter de certains avantages, notamment paraître plus jeune que ce qu'on est réellement. Oui, certains d'entre nous pourraient en profiter aussi. Mais n'oublions pas, un jour ce monde atteindra son point de non-retour. Dieu ne pardonnera plus ces injustices. Et en tant que chrétiens, allons-nous nous débarquer de ce monde ? Dieu aurait-il pu pardonner aux Israélites ? Pourriez-vous me demander ? Bien sûr, si les Israélites étaient revenus à lui sincèrement. Mais les péchés accumulés par le peuple d'Israël pèsent lourd dans son dossier. Israël ne s'est pas repenti. Israël n'a pas regretté ses actes. Et Dieu a montré, et c'est ce que je voudrais aussi vous montrer, Dieu a montré une parfaite justice en annonçant la fin de ce royaume. Dieu n'est pas seulement celui qui prononce son verdict, il est également celui qui va exécuter la sentence. Et combien ce jugement est terrible, et nous allons le voir un peu plus en détail. Mais juste avant, j'aimerais vous montrer une vidéo. Et j'espère qu'on aura du son. Alors, si la vidéo ne marche pas, on a une autre solution. Cette scène apocalyptique, alors il s'agit bien sûr d'une reconstitution ici, a vraiment eu lieu historiquement. Alors je n'ai pas trouvé de meilleur exemple que cette vidéo pour illustrer l'ambiance de la prophétie d'Amos. Et peut-être que cette catastrophe qui a touché Pompéi était un jugement de Dieu. Le débat est ouvert. Mais en ce qui concerne Amos 8, ce qui est annoncé est clairement un jugement qui vient de Dieu. Et la description du jugement divin est effrayante. Elle souligne la gravité de l'offense faite à Dieu. Et comme nous l'avons vu, c'est à juste titre que Dieu punit son peuple. Le peuple d'Israël a trahi son alliance avec Dieu. Ce Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Et la désobéissance constante face aux lois de l'Éternel a conduit la communauté d'Israël à sa perte. Et Dieu est fidèle à sa parole. Et selon l'alliance établie, la désobéissance du peuple entraîne des sanctions. Alors, au verset 3, le malheur était déjà annoncé, mais cela va continuer à s'accentuer à partir du verset 8. Ce passage décrit ce qui semble être des catastrophes naturelles. Au verset 8, nous avons ce qui semblerait être un tremblement de terre. Le pays sera secoué comme le fleuve du Nil. Au verset 9, ça ressemble tout bonnement à une sorte d'éclipse à l'heure de midi. Et puis des ténèbres qui recouvrent la terre et qui nous rappellent un petit peu une des plaies d'Égypte. Et puis ces phénomènes s'accompagnent du deuil. Nous le voyons aussi dans le verset suivant. Deuil à cause des victimes. Remarquez que tous les habitants, au verset 8, tous ces habitants seront en deuil. C'est-à-dire que chacun perdra quelqu'un. La force des images nous permet un peu de saisir l'intensité de ce que les gens ressentent. La douleur, ce jour-là, sera aussi forte que la perte d'un enfant unique. Et à l'époque, le fils unique représentait l'espoir de la famille. Perdre l'enfant unique, c'est perdre tout espoir pour son avenir. Et cet avenir nous est décrit comme un perpétuel jour de malheur. Et même au verset 13, nous parlons de cette jeunesse du pays qui n'échappera pas au jugement de Dieu, qui dépérira aussi. Mais Dieu ne s'arrête pas là. L'Éternel provoque une famine d'un tout autre genre, une famine de sa parole. C'est ce que nous lisons au verset 11 et 12. Je répandrai la famine dans le pays. On aura faim et soif, non pas de pain ou d'eau, mais faim et soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et la communauté d'Israël aura beau chercher, à la fin du verset 12, nous lisons, ils ne la trouveront pas, cette parole de l'Éternel. Alors pourquoi ce châtiment est-il si terrible? En retirant sa parole, Dieu ne donne pas accès à lui. Dieu ne donne plus accès à sa pensée. Et c'est la relation même entre Dieu et l'homme qui est totalement rompue. À force de rejeter la parole de Dieu, Israël a provoqué le retrait de Dieu. Et Dieu décide de ne plus se révéler à lui. C'est trop tard. À ce moment-là, les Israélites pourront chercher un prophète pour leur délivrer la parole de Dieu, ils ne le trouveront pas. Et pourtant, par l'intermédiaire d'Amos, Dieu leur a parlé. Et nous pouvons noter que c'est Dieu, et uniquement Dieu, qui prend l'initiative de parler ou non à son peuple. Ce châtiment, précisément, cette famine de la parole de Dieu, nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que serait une telle famine à notre époque? C'est juste une parenthèse, mais j'aimerais que nous puissions prendre conscience du privilège que nous avons de posséder une Bible dans son intégralité. Et que vraiment nous puissions avoir faim et soif de cette parole, mais dans le bon sens. Profitons de cette grâce, là où les Israélites eux-mêmes n'ont pas considéré la parole de Dieu à sa juste valeur. Cette avalanche de malheur que nous venons de voir ne résulte pas d'une colère incontrôlée de la part de Dieu, mais elle révèle bien la gravité du péché de l'homme. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Israël en paye le prix. Nous en sommes venus à l'idée qu'Israël a mérité son châtiment. Et parce que nous sommes nous-mêmes pécheurs, nous en déduisons qu'il est juste aussi que Dieu nous punisse. Mais, parce qu'il y a un mais, avec Christ, le verdict change. Au terme du chapitre 8 d'Amos, aucun espoir ne semble se dessiner pour Israël. Toutefois, si nous poursuivons la lecture, Et il faut le faire pour ne pas isoler le chapitre 8 de son contexte. Le plan de Dieu ne se résume pas à cette condamnation. C'est une condamnation qui est certes juste pour des pécheurs, mais dans sa grâce, le Seigneur a prévu une autre issue. Une autre issue pour son peuple, du moins pour une partie. Une autre issue pour les hommes et les femmes issus de toutes les nations. Alors nous le verrons une prochaine fois, puisque je serai encore amené à prêcher sur la suite de ce passage, mais j'en parle déjà un petit peu ici. Au-delà du jugement, Dieu a un plan de salut. Et cette communauté d'Israël, de cette communauté d'Israël, il y aura un reste. J'aimerais juste lire avec vous le chapitre suivant, le verset 8. Le Seigneur l'Éternel observe ce royaume coupable. Je le supprimerai de la surface de la terre. Pourtant, je ne veux pas entièrement détruire le peuple de Jacob. L'Éternel le déclare. Et c'est un magnifique pourtant. Pourtant, je ne veux pas entièrement détruire le peuple de Jacob. Un espoir subsiste. Et dans le plan divin, un reste survivra, malgré tout ce qui a été annoncé précédemment. Un reste survivra pour que Jésus-Christ, notre Sauveur, puisse un jour naître parmi ce peuple. En jugeant ainsi Israël, Dieu a révélé sa justice. Il punit l'homme pour son péché, et cela est juste, au risque de me répéter. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes encore dans le temps de la grâce de Dieu. Tout comme Dieu a été patient avec Israël, il l'est présentement avec nous. Mais ce que nous apprennent Amos 8 et d'autres textes, c'est que ce temps de la grâce, ce temps de la patience de Dieu est limité. Et un jour, les fruits du jugement seront mûrs. Ce jour où le Seigneur règle ses comptes avec son peuple n'est qu'un exemple de sa justice qui s'exercera vraiment et encore au jour du jugement dernier. Et ce jour est prévu par Dieu, comme l'annonce d'ailleurs l'apôtre Paul aux Athéniens. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Dieu jugera le monde entier en toute justice. Avons-nous conscience de ce jour où Dieu jugera le monde? Pour les uns, ce sera un jour terrible, comme pour Israël. Ceux qui auront rejeté Dieu durant toute leur vie recevront le châtiment qu'il mérite. Une séparation éternelle, loin de la présence de Dieu. Et puis pour les autres, ce sera une bonne nouvelle. Ils seront déclarés justes, non pas à cause de leurs bonnes actions, mais uniquement sur la base de la justice de Jésus, mort pour eux et ressuscité. Je disais que la description terrifiante que nous lisons dans Amos 8 nous indiquait la gravité du péché. Or, la justice de Dieu exige que tout péché soit expié. Et j'aimerais vous donner simplement une définition de ce qu'on entend par expié. Expié, c'est payer pour une faute par un châtiment considéré comme équivalent. Alors, je tire cette définition de l'un de mes professeurs, Sylvain Romerowski, mais je trouve qu'il le formule très clairement. Expier, c'est payer pour une faute par un châtiment considéré comme équivalent. Et je viens de dire que tout péché doit être expié aux yeux de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu n'a pas voulu que l'humanité disparaisse d'un coup à cause de son péché. Il avait prévu un système où le châtiment que mérite le pécheur retombe sur une autre victime, en l'occurrence un animal. Alors nous lisons dans Amos 5, par exemple, que la communauté d'Israël faisait des sacrifices. La communauté faisait des sacrifices, mais en même temps, à côté, elle continuait à pécher. Alors ces sacrifices devenaient inutiles. Et Israël demeurait coupable. Et comme tout péché doit être expié, Israël devait subir le juste châtiment de Dieu. C'est alors que nous comprenons. C'est alors que nous comprenons le sacrifice de Jésus à la croix. Dans son amour, Dieu a donné son Fils unique en sacrifice pour que le châtiment que nous méritions retombe sur lui. Dans Ésaïe 53, au verset 5, nous lisons à son sujet, « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » La solution de Dieu était de payer lui-même, en la personne de Jésus, ce que l'humanité ne pouvait pas payer. Et en recevant le châtiment à notre place, si du moins nous croyons qu'il l'a fait pour nous, Jésus nous accorde sa justice. Au lieu d'être déclarés coupables, nous sommes désormais déclarés justes à cause de Jésus-Christ. Et avec Christ, le verdict a changé. Grâce à l'œuvre de la croix, nous échappons au châtiment ultime d'être séparés éternellement de Dieu. Et c'est une merveilleuse nouvelle. C'est le message de l'Évangile. En même temps, la croix, et nous en avons un exemplaire pour nous le rappeler, la croix représente ce terrible jugement qui s'est abattu sur le Seigneur. La mort du Christ nous rappelle la gravité de notre péché. Elle me rappelle la gravité de mon péché. La croix nous rappelle que nous ne devrions pas prendre le péché à la légère. Aucun péché, même celui qui semblerait le plus insignifiant. Et c'est évidemment avec son aide que nous pourrons mener une vie qui plaise à Dieu. Alors que le Seigneur nous accorde de voir la laideur du péché dans notre vie, comme lui-même la voit. Et pour toi qui te poses encore des questions au sujet peut-être de la foi chrétienne, au sujet de Jésus, comprends que sans croire au sacrifice du Christ, tu demeures dans la même condition que les Israélites. Et venir à l'église ne te sauvera pas. Les Israélites avaient aussi leur sanctuaire. Dieu a prévu un seul moyen pour nous sauver. Et cela passe par Jésus seul. Le temps est court. Le temps est limité. La patience de Dieu n'est pas sans limite. Quelle est donc ta réponse ? Le chapitre 8 d'Amos nous rapporte un jugement inévitable de Dieu contre son peuple. Il est trop tard, la fin du royaume d'Israël a été décidée. Et effectivement, en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens sont venus et ont mis fin au royaume du Nord. Dieu a tenu parole. Cet après-midi, nous avons vu que la sentence de Dieu est entièrement justifiée. Dieu est juste quand il punit le pécheur. Et il le fait encore aujourd'hui. Deuxièmement, le jugement de Dieu est terrible, ce qui nous rappelle toute la gravité du péché qui conduit à la mort et à la séparation avec Dieu. Mais avec Christ, le verdict change. Et dans sa grâce, Dieu nous permet d'échapper au châtiment. Parce que Christ a payé pour tous nos péchés. Plus rien ne peut nous condamner si nous plaçons notre confiance en Dieu. Alors considérons encore cet après-midi la valeur de la croix qui a effacé toutes nos dettes. Cette croix qui fait que le verdict de Dieu a changé à notre sujet. Reconnaissons la grâce qui nous a été accordée grâce à l'œuvre parfaite de Jésus. Et puis adorons ensemble le Seigneur pour son plan de salut Et j'aimerais simplement terminer avec ce verset du Nouveau Testament. L'apôtre Pierre, qui dit dans sa deuxième épître, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard. Il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Et la promesse en question ici, c'est celle de son retour. Oui, lorsque le Seigneur reviendra, il sera trop tard. Alors que la volonté de Dieu soit faite. Amen. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux et vous donner l'occasion de répondre à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons encore cet après-midi prendre le temps de te remercier. Déjà te remercier pour ta parole qui ne cesse de nous avertir, qui ne cesse de nous encourager. Et nous avons sans cesse besoin d'entendre toutes ces vérités énoncées dans ta parole. Nous avons besoin d'entendre que tu es un Dieu juste, que tu as véritablement horreur du péché que nous commettons. Que dans ta justice, oui, tu as prévu le châtiment, et il est juste qu'il en soit ainsi. Mais nous voulons aussi reconnaître, et c'est une bonne nouvelle pour nous, oui, reconnaître toute ta grâce à notre égard, ta patience à notre égard, à l'égard de l'humanité. Merci Seigneur d'être encore patient, afin que d'autres puissent aussi entendre ta parole, puissent être touchés et puissent se tourner vers toi. Que d'autres puissent compter sur le sacrifice de Jésus-Christ pour leur propre salut. Et je prie que ça soit déjà le cas dans cette église, mais partout où tu nous envoies, Seigneur. Et veuille nous garder, Seigneur, aussi, dans notre vie de tous les jours, afin que nous puissions vraiment voir de plus en plus le péché comme tu le vois. Et si cela a valu la mort de notre Seigneur Jésus, eh bien cela nous montre combien le péché est horrible. Et je te prie, Seigneur, oui, que tu nous gardes de pécher contre toi. Merci encore, Seigneur, pour ta patience à notre égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen.